بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. شفاء الإسلام dans ces versets 19, 20 et 21 de Sourate At-Takwir, إذا الشمس كورت. الله عز وجل parle de l'ange Jibril alayhi salam. La dernière fois, on avait vu des signes, encore des signes de la création d'Allah, les astres, les planètes qui se succèdent, qui s'enchaînent, qui naissent et qui disparaissent. On avait vu que tout ça, ça prouve que ça, c'est bien la parole d'Allah Azza wa Jal. On va revoir aujourd'hui, en voyant que le Coran est la parole d'Allah, d'accord, révélée par l'ange Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est chargé du tablir, de la propagation à la Ummah, mais c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et c'est il est impossible qu'un seul mot du Coran puisse provenir d'un être humain. Et on va voir pour quelle raison. Et les versets qu'on avait cités la dernière fois, l'alternance entre le jour et la nuit, également cette histoire de planètes qui naissent et qui disparaissent, sont des choses qu'aucun homme ne pouvait savoir à cette époque. Il y avait peut-être des astronomes ou des gens qui avaient un peu de connaissances, mais autant de détails concernant les planètes, un être humain ne pouvait pas le savoir il y a 1500 années. Donc cela prouve bien que ces paroles sont les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, on n'a pas besoin d'être convaincu. Mais ça renforce encore plus la conviction. Et ça fait partie de ces versets miraculeux, comme l'existence des sept cieux, des sept terres, hein, l'existence de la mer douce et la mer salée, et ainsi de suite, la création du fœtus, de le ventre de la maman. Tout ça, ce sont des versets qu'on appelle en arabe « i'jaz ilmi ». Ce sont des sciences qu'Allah révèle à travers les versets du Coran, des sciences qui n'étaient pas maîtrisées à l'époque où le Coran est révélé. Il y a 1435 années quand même. Ce n'est pas il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Il y a 1435 années, il y a près de 15 siècles, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite des versets dans lesquels Allah Rabbul Izza explique comment est-ce qu'un bébé va naître, une goutte de sperme qui devient une adhérence, qui devient quelque chose de collant, qui va devenir ce qu'on appelle un embryon, qui va prendre forme, dans lequel le ruh, l'âme, sera insufflée, et comment est-ce qu'il va se développer d'abord, j'ai plus le verset en tête, c'est la peau, les os, les organes, et ainsi de suite. Ce sont des choses qu'aucun être humain, à cette époque, ne pouvait savoir. Il savait, tout le monde sait comment on fait un enfant, comment on peut avoir un bébé, comment se déroule un accouchement, d'accord. Il y a toujours eu des gens qui étaient capables de le faire, mais maintenant, les différentes phases du développement du fœtus, à partir de quand on l'appelle un être humain, quand est-ce que le cœur commence à battre, et ainsi de suite, c'est des choses que personne ne savait avant. Il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas d'appareillage pour savoir comment est-ce qu'on peut déterminer les cycles de l'évolution donc du fœtus. C'est ce qu'on appelle donc des i'jaz ilmi, des versets miraculeux. Tous les versets sont miraculeux, des versets qui parlent de sciences qui n'étaient pas maîtrisées à l'époque où le Coran est révélé. Et donc là, quand Allah Rabbul Izzah dit dans les versets qu'on avait vus la dernière fois, non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, ce sont des choses qui ont été peut-être découvertes il y a une cinquantaine d'années, une centaine d'années. D'accord? Peut-être les frères, comment ils s'appellent? Bogdanov, je sais pas quoi, ça tenait la tête carrée là. Hein, ces personnes-là, eux, maintenant, ils le savent, ils ont fait des études et ainsi de suite. Mais il y a 1500 années, il y avait personne qui pouvait avancer de telles thèses. Ça nous montre, ça nous prouve, ça nous convainc encore plus que ce sont là des paroles divines révélées par Allah qui a créé tout ce système. Alors, maintenant, Allah Azza wa Jal parle du Coran et parle de l'ange Jibril alayhi salam. Et comment est-ce qu'on dit Jibril en français? Gabriel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, ça. Et il faut mettre en avant, lorsqu'on parle de l'islam, à des chrétiens, principalement des chrétiens, d'accord, il faut mettre en avant le fait que nous croyons en l'ange Gabriel. Parce que pour eux, Gabriel, c'est d'une grande importance. Mais lorsqu'on dit, il y a des fois on fait des visites de masjid avec des touristes et tout, bien sûr la mosquée n'est pas du tourisme, on est entièrement d'accord, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de hidayah qu'il peut y avoir en faisant visiter la masjid, parce que ça ne se limite pas à une visite, hein, c'est une explication de la religion, de l'islam, et réponse aux questions, et ça permet de dissiper beaucoup de malentendus sur la religion. Bref, quand on explique que le Coran, c'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, les gens sont étonnés de savoir que nous croyons à l'ange Gabriel. Et lorsqu'on va un petit peu plus loin, on dit que c'est le même, nous avons la conviction que c'est le même ange, de nos aqaïd, notre aqidah, c'est que l'ange Gabriel, Jibril, c'est le même ange qui a apporté la Torah à Moïse, la Torah à Moussa alayhi salam, et la Bible, le Injil, à Jésus, à Isa alayhi salam. Alors là, ils ont les yeux écarquillés. Dit comment vous croyez en Jésus, vous croyez à la Bible, dit bien sûr, la Bible est une révélation de Dieu, Jésus est un prophète de Dieu, et nous le considérons comme un des plus grands prophètes, et ainsi de suite, et vous ne pouvez pas imaginer comment ça rapproche les gens, et ils se rendent compte là que l'islam n'est pas un concept tout à fait différent, mais c'est une religion qui est similaire, qui a de grandes ressemblance avec leur religion. Et après, quand on va un peu plus loin, là, par contre, on explique les différences qu'il y a dans la conception du monothéisme dans l'islam et leur conception de l'unicité de Dieu qui n'est pas vraiment un véritable tawhid, d'où le verset Suratul Ikhlas. Bref, donc, l'ange Jibril alayhi salam. Alors, les trois versets qui parlent de l'ange Jibril dans le Surat al-Takwir, ceci, c'est-à-dire le Coran, verset 19, est le parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Alors là, ce n'est pas des éloges de l'ange Jibril, subhanallah. Voyez le nombre de sifat, de qualités qu'Allah cite à propos de l'ange Jibril. Que le Coran est la parole d'un noble messager. Déjà, il a été qualifié de noble. Et on verra dans le tafsir que l'ange Jibril est le plus grand ange, tant sur le plan physique bien sûr, mais également parmi, si on pouvait classifier les anges hein, par degré d'importance, l'ange Jibril est l'ange le plus important. Et on verra pourquoi il est le plus important. Alors qu'il y a d'autres anges qui font un travail gigantesque aussi. D'accord ? L'ange Michaël par exemple, qui est chargé de la pluie, qui est chargé de la subsistance, c'est pas rien ça, la subsistance de chaque individu. Chaque bouchée de nourriture qu'on consomme, l'ange Michaël est chargé d'apporter donc ce rizq à ses créatures. Alors là, on est à je ne sais pas combien. Imaginez que Anwar était responsable de la subsistance de chacune de ces personnes pour un repas. Traka. L'un a besoin de manger pizza, l'autre ça mange quick, l'autre a besoin de manger je sais pas quoi, restaurant indien, l'autre restaurant chinois, et ainsi de suite. Un être humain ne peut pas. Vous connaissez l'histoire de Moïse, Moussa alayhi salam, qui a voulu pour une fois, nourrir hein, les poissons hein, dans une mer, et rassembler une montagne de nourriture, en pensant que là, tous les poissons de cet océan, ne serait-ce qui est devant lui, ils auront à manger. Pour voir est-ce que lui, il est capable de faire ce travail. Et lorsqu'il a jeté toute cette montagne de nourriture, il y a une baleine qui a surgi de l'eau et qui a happé tout ça. Une seule baleine. Combien de baleines il y a dans la mer? Combien de cétacés? Combien de je ne sais pas quoi? De crustacés, de poissons, de plancton? Et quand on dit la subsistance, c'est les grands mammifères, les oiseaux, toute catégorie d'animaux, jusqu'à ce qui est infiniment petit, le plancton. Qu'est-ce qu'il y a de plus petit dans la mer? C'est un plancton. Même le plancton, il a besoin de risque. Oui, non? Le plancton, il a besoin d'une subsistance pour continuer à vivre. Parce que s'il n'y a pas de plancton, il n'y a plus de vie sous-marine. Il n'y a plus de vie dans la mer. Parce que il est à la base de la chaîne alimentaire et d'autres poissons qui mangent et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au... Bref, on ne va pas faire un coup de hein, là-dessus. Mais même le plancton, il a besoin de son risque, de sa subsistance. Il y en a combien dans la mer? Alors attendez, là c'est un truc de malade là. Si on veut compter combien de plancton, hein, qui mesure je ne sais pas quoi, dans la mer, c'est par milliards de milliards. Tout ça, ce sont des créatures d'Allah. Et dans chaque plancton, dans chaque poisson, dans chaque oiseau, dans chaque insecte, dans chaque fourmi, il y avait une fourmi sur mon livre tout à l'heure, dans chaque fourmi, subhanallah, il y a un ruh, oui ou non? Il y a l'âme. Et personne n'est capable de mettre l'âme d'une fourmi vivante, retirer et mettre cette âme dans une fourmi qui est morte. Impossible, impossible. Amener le plus grand prix Nobel de science, de physique, d'astronomie, et dit voilà, professeur, Bogdanov ou je ne sais pas comment il s'appelle, avec tout le respect qu'on a pour vous, une petite mission, une mission de la taille d'un insecte. Il dit, ok, c'est pas un souci. Et voilà, on a deux fourmis, un qui est mort et un qui est vivant. D'accord? Et j'aimerais juste qu'on fasse une transplantation d'âme. Alors, les gens, les chirurgiens, ils savent transplanter à peu près tout. Hein, les cornées, des yeux, ils savent transplanter les reins, qu'Allah nous protège. Ils savent même transplanter le cœur. D'accord? Je sais pas qu'est-ce qu'ils savent transplanter encore. Mais le rouh, non. Demandez à un grand chirurgien, voilà, mon père est décédé, et là il y a quelqu'un que j'ai capturé, donc j'aimerais que vous preniez son âme, sa vie, et mettez dans le corps de mon père qui vient de mourir. Personne ne peut le faire. Impossible. Que ce soit à l'échelle miniature, ou alors à l'échelle humaine ou autre chose. Bref. Chaque créature qui respire, qui a un cœur qui bat, qui a donc un rouh, l'âme de son corps, a besoin de sa subsistance, de son risque, et ce risque est apporté par l'ange Michaël. Donc, et ça, depuis la création, le début de la création, jusqu'au Qiyama. C'est un travail colossal. On ne peut même pas concevoir, on ne peut même pas imaginer. C'est un travail qui ne s'arrêtera, qui ne s'arrête jamais. D'accord? Mais malgré ça, le rang de l'ange Jibril alayhi salam est supérieur au rang de l'ange Michaël. On verra pourquoi. Donc, première chose qui est citée, un noble messager, doué d'une grande force. La force de l'ange Jibril alayhi salam, c'est inimaginable non plus. La grandeur, sa corpulence, on verra. Ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Rabbul Arsh al-Azim, qui a un rang, le rang le plus élevé, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ange qui a le plus de pouvoir, à qui Allah accorde le plus de pouvoir, qui a le plus haut rang auprès d'Allah, c'est bien l'ange Jibril alayhi salam. Obéi là-haut. Obéi par qui? Par tous les malaïkas. Tous les anges obéissent à l'ange Jibril alayhi salam. Lorsque l'ange Jibril fait passer un ordre de la part d'Allah aux autres anges, les anges exécutent immédiatement. Et digne de confiance. C'est pour ça qu'Allah lui a accordé le travail de la transmission du wahi, de la révélation. Donc on va voir ça. Ces trois versets nous intéressent. Alors, innahu la qawlu rasulin karim, donc on a dit, c'est la parole, le Coran, la parole d'un noble messager. En parlant de Jibril alayhi salam, il faut dire, innahu rasulullahi ila rusul, bil wahi alladhi yunazziluhu alayhim. Que l'ange Jibril, historiquement, c'est l'envoyé d'Allah à l'attention de tous les envoyés, de tous les prophètes qui sont venus sur la terre depuis Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah l'a qualifié de noble, li husni manzarihi, par rapport à son apparence déjà, par rapport à la création, la beauté de la création de l'ange Jibril alayhi salam. Et il est dit, ici dans un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu dans sa véritable forme, son véritable aspect, parce qu'il y a des fois où l'ange Jibril venait voir le prophète sallam sous l'apparence d'un être humain. Comme le hadith de base, le hadith qu'on explique à Saint-Clotilde, qu'on appelle le hadith Jibril, dans lequel il enseigne, il rappelle au prophète sallam et aux sahaba les piliers de l'islam, les bases de la foi, le ihsan et ainsi de suite. Ça c'est hadith de base, ça il faut connaître sur le bout des doigts. Pour avoir iman réel, il faut connaître le hadith Jibril, ça c'est obligatoire. Et donc, il vient voir le prophète sallam et les sahaba sur l'apparence d'un homme. Un homme habillé de blanc, d'accord, avec les cheveux très noirs, un voyageur, un étranger, mais sur lequel il n'y a aucune trace de voyage. Un homme qui vient, qui s'assoit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'assoit directement auprès de lui. Alors qu'il y a plein de sahaba qui sont autour, lui il se faufile, il s'assoit directement auprès de lui, il pose. Il démarre la conversation, ce qui peut paraître à la limite de l'irrespectueux. Il demande au prophète sallam des questions, et lorsque le prophète répond, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Sadaqt, tu as dit vrai. Et là, les sahaba, ils ne comprennent plus rien. Il vient demander, il dit que c'est vrai, tu as raison. C'est un manque de respect au prophète sallam. C'est comme si qu'il vient, na'oudou billah, examiner le degré de connaissance du prophète sallam. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a répondu à toutes les questions, il avait compris. Il dit au sahaba, quand l'homme repart, il dit à sahaba, va rappeler cette personne. Et les savants disent que on est à la masjid Nabawi, à Madina. C'est un endroit en plein désert. D'accord ? Quand quelqu'un quitte la mosquée, quitte un endroit, comme c'est désertique, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'endroit comme ça, vous le voyez quoi. Vous le voyez, même si ça fait 5 minutes, vous pouvez le voir et le rappeler rapidement. Il sort de la mosquée, quelqu'un va le rappeler et la personne a disparu. Et là, le prophète me dit que c'est l'ange Djibril al-Islam qui était venu vous enseigner votre religion. Donc, Djibril peut apparaître sous la forme d'un être humain. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu une fois sous son aspect réel, lahu sittumiya janah, avec ses 600 ailes. L'ange Djibril alayhi salam est doté de 600 ailes. Et là, on voit encore la grandeur et la puissance d'Allah. On ne peut même pas imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer un oiseau avec 10 ailes ou 12 ailes? C'est inimaginable. Donc là on ne parle pas de volatile voiture, on parle d'un ange créé de nour, créé de lumière, et qui, subhanallah, lorsqu'il s'envole, il a 600 ailes qui se déploient. Qad sadda al-ufuq kullah, dit que l'ange Jibril alayhi salam, lorsqu'il est apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remplissait tout l'horizon, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait voir. Et là encore, on se resitue dans le contexte, dans le désert. D'accord ? C'est pas, par exemple, si je dis qu'un ange apparaît dans la masjid, de toute façon, c'est contenu dans, je sais pas combien de mètres cubes il y a ici, donc à un moment donné, c'est contenu. Mais là, dans un endroit ouvert, comme dans un désert, où il y a le ciel, il y a le sable, il y a l'étendue à perte de vue, il était tellement gigantesque que ça remplissait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait voir. Donc ça, c'est la beauté d'un Dieu. Et les anges, bon, c'est pas le sujet, hein, mais les anges, d'une manière générale, ce sont des créatures magnifiques, d'une grande beauté. Je vous dis pas parce que j'en ai vu, j'ai pas atteint ce degré, mais parce que les hadiths le décrivent. Et quand est-ce qu'un être humain peut voir un ange? Ibrahim, peut pas? Jamais? Bilal? Sur cette terre, ce sont véritable apparence. Impossible? Ahlan. Notre frère a donné la bonne réponse. Au moment de mourir, le défunt, et que lui, le mourant, voit l'ange de la mort qui vient prendre son rouh. Et c'est le seul qui voit. C'est le seul qui voit. Même s'il est entouré, si celui qui est en train d'agoniser est entouré de toute sa famille, d'accord? Mais personne ne peut voir, à l'exception de celui qui est en train de mourir. Et il y a deux façons de voir l'ange de la mort. Et nous, on va s'attarder sur la plus belle des façons. Lorsque l'ange de la mort reprend l'âme d'un croyant, d'un serviteur d'Allah, d'un homme qui était pieux, ben, il voit Malik al-Maut sous son apparence, l'apparence la plus belle. On parle de lumière comme des perlettes de lumière qui coulent de lui. Et dans les hadiths, il est dit, je ne sais pas si c'est Imam Qurtubi, rahimahullah, qui cite un hadith, dans lequel il dit que la vision, la simple vision de l'ange de la mort sous cette apparence, ce serait déjà une récompense suffisante pour le croyant. Tellement les anges sont d'une beauté exceptionnelle. D'accord ? Donc ça, c'est d'une manière générale. Et l'ange Jibril est certainement l'ange le plus beau, le plus fort, le plus grand et qui a le plus d'importance, à qui Allah a donné, pas qu'il a plus d'importance, non, Allah n'a besoin de personne. Celui à qui Allah a donné le plus grand rôle dans la création. Donc, l'ange Jibril alayhi salam. Inda dhil arshi matin. Ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Et les savants, ils expliquent pourquoi est-ce que Makin ay zi makana, qui a donc un rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que l'ange Jibril est l'ange qui a le plus d'importance pour Allah? Enfin, on revient vers les premiers termes. L'ange à qui Allah a accordé la mission, la meilleure des missions, parce qu'il est chargé des wahi, des révélations. Alors on peut se dire, mais il y a la prophétie terminée. Donc on pourrait dire, d'un certain sens, que la mission de l'ange Jibril a pris fin depuis les derniers versets du Coran. Alors que, par exemple, l'ange Mikaïl continue. L'ange de la mort, il continue, et ainsi de suite. Mais les savants expliquent, en comparaison par exemple avec l'ange Mikaïl alayhi salam, dit que Jibril alayhi salam est responsable de la vie des rouhs, de la vie spirituelle, alors que l'ange Mikaïl alayhi salam est responsable de la vie on va dire physique, du corps, de l'entretien, on va dire, du corps de toutes les créatures en apportant leur subsistance. Et là, en déduction, les savants disent que donc nous comprenons que ce qui a le plus d'importance pour Allah, c'est le spirituel, c'est les révélations, c'est ce qu'on peut apporter aux autres en termes de spiritualité, qui a beaucoup plus d'importance que ce qu'on peut apporter en termes de bien-être. Vous voyez un petit peu là, c'est un peu poussé quand même, mais il y a une déduction qu'il tient à partir de ça, dit que la mission de Jibril est supérieure parce qu'il est chargé de la vie spirituelle de chaque croyant. Alors que par exemple, Mikaïl est chargé de la vie physique, de la santé, du bien-être des créatures d'Allah. Il dit que parce qu'aucune vie ne mérite d'être vécue s'il n'y a pas la spiritualité. Aucune vie n'est digne d'être vécue, ou ne vaut le coup, ou n'a une quelconque importance s'il n'y a pas la spiritualité, s'il n'y a pas l'obéissance aux ordres d'Allah, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas une croyance authentique en Allah, l'obéissance en ses ordres et l'éloignement de ce qui est interdit. Parce que quand une personne vit pour Allah et accomplit de bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal garantit à cette personne, déjà de ce dunya, la tranquillité du cœur. Et là, on ne parle même pas des récompenses de l'au-delà. On parle de ce que la personne va ressentir dans son cœur. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable, ça. Le contentement du cœur, ça ne s'achète pas, ça ne se négocie pas, ça ne peut pas se combler par du matériel. Non. On a l'illusion parfois que pour avoir la paix intérieure, voilà, je vais m'acheter un chalet, un grand chalet. Je vais m'installer, pareil, l'endroit le plus calme, le plus zen au monde, c'est près d'un lac, je pense, suisse, le lac, comment ça s'appelle? Hein? Lemon? Bref, c'était là-bas, d'accord? Miami, non, rien, cher, tu veux des fitnas là? Nous, on veut de la tranquillité, tu veux des choses dégueulasses. Miami, na'ouz billah. Non, je plaisante. Près de ce lac, d'accord? Il y a pas mal de personnes du Moyen-Orient, ils achètent de grandes villas. Alors moi je vais faire ça, je vais prendre un emprunt avec un noir qui, mashallah, qui a les moyens, et donc je vais m'acheter une villa avec machin, près du lac et ainsi de suite. Voilà, disons, est-ce que c'est une condition du bonheur? Il paraît que oui. Donc ensuite je vais m'acheter une très belle voiture, je vais faire en sorte que j'ai une magnifique femme, une magnifique épouse, ou je sais pas, avec des maîtresses, on ne peut pas dire plusieurs épouses, c'est interdit, c'est contraire au respect de la femme, donc des maîtresses, que je trompe ma femme matin et soir, bref, et ainsi de suite, un chalet, des chevaux, j'allais dire des chameaux, non, des chevaux, et ainsi de suite, et plein de choses, et avec ça, théoriquement, mon cœur va être comblé, théoriquement, mais ça reste de la théorie. Le cœur sera comblé un jour, deux jours, trois jours, pendant quelques temps. Mais vous savez, quel que soit le degré et le niveau de richesse qu'on peut atteindre, à un moment donné, le cœur se lasse. Ça, c'est ajib, ça. Le cœur de l'homme a été créé comme ça. Il ne peut pas se satisfaire de ce qui est matériel. Je donne un exemple, hein, d'accord? Vous allez en tourisme, je parle d'un pays, quel que soit l'endroit, même dans les lieux saints, vous allez à Mecca ou à Madine, d'accord? Vous voulez prendre le meilleur des hôtels, 5 étoiles avec la suite royale Malaki, comme on dit, d'accord? Avec une vue extraordinaire, vous avez des repas, le buffet, il fait, mashallah, il fait 300 mètres, c'est tout ce qui peut être mangé, s'y trouve, d'accord? On se dit que là, quelqu'un qui est là-dedans, c'est l'homme le plus heureux. Oui, il est heureux. Le premier jour, il découvre, waouh, tout ça, le lit douillet, un tempura de 50 cm, tout ça, il est aux anges, d'accord? Il va manger au buffet, il est heureux, jamais mangé autant de choses, il boit des jus frais, il mange le homard, langouste au petit déjeuner, ainsi de suite, il est heureux, d'accord? Le lendemain, il est content, là franchement, on va remettre ça, on remet le couvert. Au bout d'une semaine, ce qui est toujours aussi motivé, c'est fini. Combien de temps ça mange langouste, crevette, poisson, je sais pas quoi, je sais pas ce que vous aimez manger. Combien de temps va manger des choses luxueuses, au moins luxueuses, profiter de ce lit, de ce confort. À un moment donné, le cœur se lasse de tout. Dites-moi, qui était un des hommes les plus riches au monde? Oui, je vais parler des non-croyants. L'exemple, c'est en enlevant le iman, yani. Qui ça? Pharaon? Pharaon, c'est le plus puissant, plus grande armée. Qarun. On a entendu parler de Qarun. Inna Qarun kana min qawmi Moussa. Il faisait partie du peuple de Moussa. En français, Qarun est traduit par Kouri. Je ne sais pas pourquoi. Bon, d'accord. Donc Qarun, un des les clés même de ces coffres étaient portées par des caravanes de chameaux. Bref, c'était un déglingo, comme on dit, quelqu'un qui était plein aux as. Il n'y avait pas plus hippie, pas d'impôts, pas de taxes d'habitation, pas de taxes d'ordures ménagères. Il n'y avait pas rien. Il était tranquille, lui. Pas de CSG, pas de... Combien les impôts, il fait mal, là? Hein? Ah, l'impôt sur la richesse. Et lui, il parlait tout ça. C'était l'homme le plus riche au monde. Mais est-ce qu'il avait la tranquillité du cœur? Il avait un problème avec Moussa, alayhi salam, il avait un problème avec des gens, et ainsi de suite. Regardez, et le Moufassir se dit, il dit une parole qui est belle, il dit, « Wallahi, law fattasht al-mulouk wa abna al-mulouk. » Regardez, analysez la vie de ces rois, de ces princes, « wal-wuzara wa abna al-wuzara. » Regardez la vie de ces ministres, de ces fils de ministres, « wal-umara wa abna al-umara. » De ses émirs et de leur famille, ou al-arniya ou abna al-arniya, les riches, les fils des riches, mimman laysu min ahli al-iman wa al-amal as-salih. Regardez la vie de ces gens-là, ceux qui n'ont pas la foi et qui n'accomplissent pas de bonnes œuvres. Law fattashtahum wa fattashta man amana wa amila salihan lawajadta thani atyab 'aysha. Si vous analysez la vie de ces gens puissants, riches et comblés, mais qui n'ont pas la foi, et la vie d'un croyant qui a la foi, qui accomplit de bonnes œuvres, on trouvera une tranquillité dans le cœur du croyant qui est introuvable dans le cœur du non-croyant. Et ça nous fait encore plus réaliser que la vie spirituelle, c'est la véritable vie. Parce que c'est la vie spirituelle qui nous permet d'avoir une vraie vie de l'au-delà. C'est la vie spirituelle qui nous permet d'avoir une véritable vie dans l'au-delà. Autrement, si quelqu'un a la plus belle vie, en guillemets, dans ce monde sans spiritualité, la personne n'aura aucune vie digne de ce nom dans l'au-delà. Ça, il faut qu'on analyse bien ou qu'on comprenne bien. Et très souvent, deux exemples un petit peu terre à terre, hein, d'un grand footballeur et d'une grande chanteuse. D'accord ? On regarde ce footballeur argentin qui a vécu, hein, c'était une certaine époque, d'accord ? On a tous entendu parler de cette personne, riche, célèbre, meilleur, je sais pas, ballon d'or, soulier d'or, et ainsi de suite. Mais pourquoi il s'est shooté à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'il se drogue? Il a tout, l'amour, gloire, beauté, et plus encore. Mais malgré ça, il a besoin d'autres choses. Il y a quelque chose, ces millions d'euros, de francs, de dollars, ne comblent pas le cœur. Regardez cette autre, une chanteuse, je sais pas, une américaine ou anglaise, je sais pas quoi, c'est qui s'était rasé la tête là, sur internet. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout. Elle a tout ce qui est imaginable. Nombre de fans, nombre de je sais pas quoi. Et le coco qui bloque, comme on dit. Parce que le cœur de l'homme ne peut être comblé sans la spiritualité. Comme Allah Azza wa Jal dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. C'est par la pensée d'Allah que les cœurs s'apaisent. Les cœurs ne s'apaisent pas en prenant des médicaments, il y a des gens quand ils ont un problème, c'est du Lexomil, ils vont prendre des trucs pour dormir, ils vont prendre des trucs pour les dépressions et ainsi de suite, qu'Allah nous en préserve, en pensant qu'avec ça, ils vont aller mieux. Non. Ça va créer des dépendances, ça va créer d'autres troubles et ainsi de suite. Chers frères, la seule chose qui apporte sur long terme une tranquillité, une stabilité pour le cœur, pour l'esprit, c'est la pensée d'Allah, c'est la relation du cœur, du croyant avec son Seigneur. Parce que c'est Allah qui a créé le cœur. Et c'est Allah qui connaît comment il fonctionne, ce qui est bon pour ce cœur. Et Allah Azza wa Jalla nous a enseigné que c'est la spiritualité, c'est la pensée d'Allah qui apporte la sakina, la tranquillité dans le cœur. Et dernier point, qu'est-ce qui fait, et puis notre ami Javed pourra rentrer chez lui, qu'est-ce qui fait qu'un croyant, déjà il n'a pas mis son t-shirt de PSG, c'est pour ça qu'on l'a accepté dans notre majlis ce soir, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'un croyant doit normalement avoir le cœur toujours apaisé? C'est ce hadith magnifique. Vous savez, on explique ça encore sur la Jumu'ah aujourd'hui, le khutbah. Dans notre religion, on a des citations prophétiques, des hadiths qui sont tellement beaux, qui sont tellement magnifiques, mais dans notre société, on s'est plus focalisé sur les citations d'hommes de lettres. On a des Voltaire, on a du Baudelaire, on a Proust, on a, et ainsi de suite, ou des grands philosophes. Mais si ils avaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on mettait suffisamment en valeur ces paroles, ça donnerait une autre vision du monde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une parole extraordinaire, « Ajaban lil mu'min », la situation du croyant, elle est extraordinaire. « Inna amrahu kullahu khair », tout ce qui touche le croyant, tout ce qui lui arrive, il y a un bien dedans. « Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min », et ça, c'est spécifique aux croyants. On va voir la tranquillité du cœur du croyant dans toutes les situations de la vie. C'est spécifique à celui qui a la ilaha illallah de son cœur. Ceux qui ne l'ont pas ne trouveront jamais cette tranquillité. Pourquoi ? In asabathu sarra shakar fa kana khayran lahu. Lorsque il lui arrive un heureux événement, lorsqu'il lui arrive quelque chose de bien dans sa vie, il va remercier Allah et c'est une bonne action. Quand vous, alhamdoulilah, vous avez quelque chose, vous obtenez quelque chose que vous recherchiez depuis longtemps, vous êtes heureux. Et que vous remerciez Allah, c'est une bonne action. Allah est satisfait de vous parce que vous avez été reconnaissant. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ حَدِيمَ مُسْلِمْ. Et s'il lui arrive un malheur, une épreuve, il s'en remet à Allah, il fait preuve de patience, il s'en remet à Allah et il en sera rétribué, il y a un bien pour lui. Dans le bonheur, on s'en remet à Allah, c'est une récompense, il y a un bien pour nous. Dans le malheur, on s'en remet à Allah, on est patient, c'est une récompense et Allah, il veut uniquement le bien pour nous. Donc, le croyant qui croit en Allah, qui croit au destin, quelles que soient les situations de la vie, il sait que tout vient d'Allah. Il s'en remet à Allah. J'avais un projet, ça a réussi, alhamdulillah, je remercie Allah. Le projet n'a pas réussi, khair. J'ai un ami, il me disait qu'il avait un projet de reprendre un fonds de commerce au centre-ville. Il était très motivé. Il avait déjà prévu le budget, de refaire les travaux et ses marchandises étaient prêtes, le carré piéton. La somme était super pour le loyer et tout. Dernière minute, l'ancien propriétaire lui dit que tout compte fait, je ne cède plus mon commerce. Et dépité, parce qu'il il voulait faire son travail, gagner sa subsistance de cette façon. Si ça arrivait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait déjà investi, qui n'a pas la foi, il aurait pu être accablé, faire une dépression, ou même s'énerver, s'emporter, et ainsi de suite, avec la personne. Mais quand ça arrive à un croyant, il se dit que si je n'ai pas eu ce fonds de commerce, je n'ai pas eu ce travail, c'est qu'il y a un réel pour moi. Il y a un bien pour moi dedans. Sans le moindre doute. Et c'est ça qui fait la force du croyant. Chose que le non-musulman ne peut pas imaginer. Pour lui, s'il a perdu quelque chose, il va culpabiliser. Soit c'est ma faute, soit chercher un coupable, ce qui est plus facile. Chercher un coupable, c'est la faute de qui? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu ça? Et ça va le miner, ça va le détruire psychologiquement, ça va l'affecter et il va ressortir avec un complexe d'infériorité. Je suis un loser. Je suis un loser, un perdant. J'ai raté. J'ai pas réussi l'entretien d'embauche, j'ai pas eu ce boulot, j'ai pas eu ça, je suis mauvais, je suis nul, j'arrive pas à m'intégrer. Il va s'isoler, il va peut-être devenir parano, il va peut-être devenir, il y a d'autres pathologies psychologiques, j'ai plus en tête et ainsi de suite. Bref, ça va l'affecter profondément, jusqu'à ce qu'il se mette en situation peut-être de retrait. Ça peut même amener quelqu'un vers un suicide. J'étais avec un médecin ce matin, un médecin me disait que voilà, il a un grand regret dans sa vie de médecin. Il dit quand il était interne, je ne sais pas quelle ville en France, quand il était médecin interne, son père était rentré en service de cardiologie. Et donc, bon, il est interne, donc il n'est pas, je sais pas, interne, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore le diplôme ou ils sont stagiaires. Il dit qu'il y avait des cardiologues qui ont diagnostiqué le problème de son papa, mais ils se sont tous trompés. Et lui, il avait une autre idée, un autre diagnostic, un petit peu comme un docteur House, un truc comme ça. Il voyait autre chose, mais voyant qu'en face de lui il y a des cardiologues quand même, des spécialistes, alors que lui il est interne généraliste, il s'est dit que ces gens-là ils savent mieux que moi. Et le diagnostic de ces cardiologues était pas bon, son père est mort devant lui. Il m'a dit que quand mon père est mort, c'est là que je me suis rendu compte que je l'avais le diagnostic. Il aurait fallu faire telle chose, ça remonte, faire telle chose, mettre un peacemaker, un truc comme ça, et aujourd'hui mon père était encore vivant. Donc c'est quelque chose, il en parle après, je ne sais, au moins 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas n'a pas digéré ça. Psychologiquement, ça l'affecte encore. Ça, c'est, je vous dis ça parce que ça s'est passé ce matin, anecdote de la vie. Et quand on entend ça, immédiatement, on fait le rapport avec la foi. C'est-à-dire une lecture de la vie avec la foi. Je dis que, subhanallah, si c'était quelqu'un qui avait iman, il n'aurait pas été affecté. Jusqu'à en parler à un étranger, je ne le connais pas personnellement, ça veut bien dire que la personne est encore affectée. Alors que le croyant, il dit que si mon père est mort, c'est qu'Allah, Rabbul Izzah, avait décidé que c'était l'heure pour que Malik al-Maut reprenne son âme. Son ajal, le moment, était venu. Bas, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas à dire si. Parce que Barsan dit, ne dites jamais si. Et ça, Allahu Akbar, il y a tellement de trucs à expliquer. Sur le, c'est la, vous savez, si on, un jour on parlera un peu de l'importance de la psychologie en islam. D'accord ? Il n'y a rien qui détruit quelqu'un comme le si. Avec, si on colle des si, on referait quoi ? On ferait Paris, d'accord ? On ferait Marseille plutôt. Moi, je préfère dire comme ça. Chaque fois que l'être humain dit, là où, si seulement, Barsan m'a interdit un croyant de dire si après un événement. Pourquoi ? فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Quand quelqu'un revient sur le passé en disant « J'aurais dû, il aurait fallu, si seulement j'avais » ça, ça ouvre en grand les portes du diable, les portes de Shaytan, qui va te faire douter du taqdir, du destin, et qui va te détruire psychologiquement. Vous voyez comment l'islam apporte une tranquillité pour l'homme. Là, on ne parle plus de l'âme, là, on parle du côté psychologique, de la confiance en soi, de la stabilité de l'homme. Ça, c'est des notions extrêmement importantes. On ne devient jamais un loser en islam. On grandit avec les événements et notre conviction en Allah se renforce. Donc, une des raisons encore, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la situation du croyant dans toutes les situations de sa vie, il s'en remet à Allah, il sait que tout vient de la part d'Allah, alors que celui qui n'a pas la foi ne pourra pas avoir cette réaction et n'aura jamais cette tranquillité du cœur. Donc en conclusion, on va finir avec ça, les savants disent, voyez que la mission de l'ange Jibril est la plus importante dans la création parce qu'il est chargé de la nourriture, de l'apport spirituel, de ce qui fait la vie du cœur. Et c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Et d'ailleurs, de le Coran, je crois que c'est dans... Je ne sais plus le surat. En parlant de la vie... on dit que j'ai plus le verset sous les yeux là, je le retrouve plus. En parlant de la vie, on parle que la véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. La véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. Autrement, hein, la vie de ce dunya, c'est une vie qui n'a pas grande importance. On va s'arrêter à la pause, Inch'Allah. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et vous avez le verset de Suratul Fajr, hein, Yaqulu ya laytani qaddamtu li li hayati. Ça, c'est ce que quelqu'un va dire. Ce que le non-croyant va dire le jour de Qiyam, des regrets, des remords, il aurait dû faire telle chose dans sa vie. Voilà, c'était le verset que j'ai cherché, les hayati. Et les mufassirs disent que le mot hayat, parce que la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Si quelqu'un n'a pas œuvré dans ce dunya, la personne le regrettera éternellement. Donc à travers ce verset, à travers la mission de l'ange Jibril, nous comprenons que la spiritualité, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que la mission de l'ange Jibril alayhi salam est la plus importante. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, renforce la conviction, l'amour pour lui dans notre cœur, la crainte d'Allah dans nos cœurs, et nous permet de rester dans le droit chemin jusqu'à la mort, avec et que dans le Jannah, nous retrouvons inshallah nos proches, hein, les personnes que nous aimons. Man tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. La semaine prochaine, on termine at-takwir, inshallah.